la une en Israël, on va s'intéresser maintenant à une question épineuse, entre autres. Cibler et éliminer les têtes du Hamas et du Hezbollah, est-ce la seule stratégie possible? Alors Lucie, pour en parler, eh bien vous êtes en compagnie ce matin de Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires. Je vous laisse converser avec lui.
Bonjour Raphaël Jérusalmi.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, nous avions discuté hier sur notre antenne de l'élimination d'Ismaël Haniyeh et de Fouad Chouker, le numéro 2 du Hezbollah. Entre temps, Tzal a indiqué que Mohamed Def avait également été éliminé il y a quelques semaines, et des informations publiées hier font état de l'élimination d'un officier supérieur des gardiens de la Révolution en Syrie, cette fois. C'est une attaque coordonnée de la part de Tzal? C'est dans les tuyaux depuis longtemps?
C'est dans les tuyaux depuis longtemps, et on a pendant des années du côté militaire et sécuritaire demandé au niveau politique de pratiquer de plus en plus les éliminations ciblées. C'est un outil très efficace, c'est un outil qui est propre, je dirais, c'est préférable à des centaines de combattants sur des champs de bataille ou à des bombardements massifs avec des dommages collatéraux. Là, vous avez un travail qui est précis, qui est économique, et surtout il faut bien choisir la cible. S'il faut pas éliminer n'importe qui, il faut savoir éliminer des personnages clés, des personnages qui ne sont pas faciles à remplacer, parce qu'on dit toujours tout le monde peut être remplacé. Ce n'est pas vrai. Le général Soleimani des gardiens de la Révolution n'a pas été remplacé. Il a un remplaçant, mais personne n'a pu remplacer son génie stratégique, son charisme, sa popularité auprès des troupes. Il en va de même pour Mohamed Def, qui était une icône au sein de la jeunesse de Gaza. Et donc, il y a ici un outil extrêmement utile à utiliser. Et je pense qu'il y aura encore pas mal de dirigeants de factions terroristes qui vont en faire les frais.
Alors, c'est quand même toujours un coup de poker. Comment Tzal évalue ses chances de succès?
Eh bien, Tzal et le gouvernement savaient très bien que ce genre d'élimination, surtout sur le sol iranien, aurait des conséquences et qu'il y aurait une riposte. Il va y avoir une riposte à laquelle il faut bien comprendre tout de suite que, quelle que soit la riposte de l'Iran à ce qui s'est passé, la contre-riposte d'Israël sera 10 fois plus violente. Donc les Iraniens le savent. Ils vont devoir faire très attention à comment ils vont opérer, à mon avis. Il y a en plus aujourd'hui un appui qui n'existait pas par le passé, c'est-à-dire nous avons l'appui américain, d'accord, mais il y a une participation même de la communauté internationale et surtout même de certains pays arabes. Donc l'Iran n'est pas véritablement au top stratégique pour attaquer Israël, et comme je l'ai dit, quelle que soit l'attaque que les Iraniens nous préparent, ce qu'on leur prépare à eux en retour, ils le remettront pendant 10 ou 20 ans.
Alors, certains disent que la mort des commandants ne change rien aux capacités à long terme des organisations terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Non, pas du tout. La mort d'un commandant ou d'un général, c'est peut-être temporaire, ça c'est vrai, mais ça crée un certain chaos, ça crée une rupture dans la chaîne de commandement, ça crée un certain désarroi. C'est de toute façon quelque chose qui pose problème à la force qui est visée, la force qui était sous le commandement du personnage. Donc il y a ici une efficacité au moins temporaire sur le plan opérationnel. On le voit d'ailleurs à Gaza, où avec la disparition non seulement de Mohamed Def, mais de certains chefs de brigade terroristes, il y a une difficulté à coordonner les opérations, à savoir quel est l'objectif de certaines campagnes militaires. Et donc, c'est effectivement efficace. J'oserais dire que l'élimination ciblée devrait devenir un outil international de la paix. Il y a beaucoup de gens qui devraient être éliminés. Certains dirigeants de certains États, il n'y aurait pas eu la guerre civile en Syrie si on avait éliminé Assad dès le départ. Il fallait éliminer Assad et on aurait évité 300 000 ou 400 000 morts.
Mais y a-t-il tout de même une stratégie militaire alternative à celle consistant à éliminer les commandants des organisations terroristes ennemies?
Oui, comme je l'ai dit, malheureusement, l'alternative, c'est un conflit en bonne et due forme, et c'est donc des affrontements armés, et c'est beaucoup plus violent. Moi, je reviendrai toujours sur l'élégance de cette solution.
Et Israël est maintenant, j'imagine, en position de force dans les négociations sur la libération des otages, mais il va y avoir des retombées, j'imagine ?
Oui, mais ça pourrait être aussi dans le bon sens. Ça peut être dans le mauvais sens au départ. Hein, évidemment, on a cru la même chose avec l'élimination de Mohamed Def. On a dit, on a éliminé Mohamed Def, il n'y aura plus de négociations pour lever les otages. Et effectivement, le Hamas a boudé 2-3 jours. Et puis les négociations ont repris. Ce sera la même chose cette fois-ci. Les négociations reprendront, car les Égyptiens et les Qataris n'en démordent pas. Ils veulent arriver des avancées dans ce sens. Les Américains, bien sûr, font pression. Et donc, tôt ou tard, les négociations vont reprendre. Elles sont d'ailleurs pas véritablement interrompues. Elles sont ralenties, si on veut. Alors, dans un premier temps, c'est pas bon pour les otages, mais dans un second temps, ça exerce une pression très importante et ça montre la détermination israélienne qui devrait donner à réfléchir à Sinwar. Sinwar voit maintenant que les Israéliens sont prêts à aller jusqu'au bout, que si jamais lui ou ses sbires veulent avoir la vie sauve, veulent être épargnés, ils doivent libérer des otages, sinon ils sont foutus.
Et justement, Benjamin Netanyahou a déclaré au commandement du front intérieur hier, Israël est en état d'alerte maximale tant sur le plan défensif qu'offensif. Et des révélations du New York Times d'Axios ce matin révèlent que le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, avait été éliminé par une bombe cachée, déclenchée par le Mossad à distance. Israël est prêt. Quels pourraient être les scénarios possibles dans les prochains jours, les prochaines semaines ?
Israël, de toute façon, est en état d'alerte maximale depuis 9 mois. Donc, c'est pas un grand changement. On est en état d'alerte. Les avions de l'armée de l'air sont sur les pistes. Les pilotes de l'armée de l'air sont assis dans les avions, sur les pistes, prêts à décoller. N'oublions pas que l'armée de l'air n'est pas seulement offensive, elle est aussi défensive, c'est-à-dire que les avions de combat peuvent détruire des missiles balistiques en plein vol. Le commandement nord, spécialement, est complètement mobilisé. Et donc, non seulement cela, mais toute la population israélienne, et je parle même des enfants d'Israël, tout le monde est comprend qu'il y a ici une possibilité d'une attaque massive venue d'Iran et d'ailleurs, et qu'il faut aller aux abris, car l'une des victoires d'Israël sur ses ennemis, c'est la discipline avec laquelle la population israélienne obéit aux instructions du front intérieur. Les gens vont aux abris, les gens font attention, ne jouent pas à la roulette russe. En Israël, on fait bien attention à suivre les consignes. Et grâce à cela, on évite beaucoup de victimes.
Eh bien, Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements de Tzahal, je vous remercie pour votre éclairage et je vous dis à très bientôt.
À bientôt.